En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Dans le cadre de ces séances hebdomadaires, l'Académie des sciences morales et politiques a choisi cette année le thème de réflexion « Santé, médecine et société ». Le 4 juin 2007, elle a reçu Annie Poder, conseillère référendaire à la Cour des comptes et directrice de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne, qui est venue présenter une communication consacrée au thème « L'hospitalisation à domicile ». Rejoignons-la en séance.
Monsieur le chancelier, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames et messieurs les académiciens, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour cette invitation et de saluer ainsi l'intérêt de l'Académie des sciences morales et politiques pour les questions de santé et en particulier pour la politique de l'État en matière d'hospitalisation à domicile. Je souhaiterais également rendre hommage au docteur Pierre-Jean Coustex, président d'honneur de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile, qui aurait pu faire cette intervention devant vous aujourd'hui, et dont le travail constant depuis des années pour promouvoir le développement de l'hospitalisation à domicile a très largement contribué aux avancées que je vais avoir l'honneur de vous présenter cet après-midi. Les réflexions actuelles sur la modernisation du système de soins mettent l'accent sur plusieurs enjeux majeurs que sont une meilleure prise en compte du patient, le vieillissement de la population, le caractère chronique de nombreuses pathologies et une meilleure utilisation des ressources. Quand je parle de ressources, j'évoque les compétences médicales et paramédicales, le coût et l'implantation des plateaux techniques. Ces enjeux nous demandent de favoriser des organisations de soins qui privilégient le suivi des patients, les réponses aux besoins de proximité, les approches coordonnées entre l'ensemble des professionnels de santé, qu'ils soient à l'hôpital ou en ville. L'hospitalisation à domicile est l'une des modalités d'organisation qui répond à ces multiples défis. L'hospitalisation à domicile recentre le soin autour du patient et coordonne précisément les professionnels autour de chaque parcours de santé. Mode alternatif à l'hospitalisation, qu'elle tende à l'éviter ou à la raccourcir, l'hospitalisation à domicile prend en charge dans sa globalité et de manière coordonnée le patient. C'est là sa vraie spécificité. Elle lui apporte à la fois des soins médicaux et paramédicaux, mais aussi un suivi psychosocial dans le cadre d'un programme de soins personnalisé dispensé au quotidien. L'hospitalisation à domicile constitue une forme de réseau particulier, interface entre l'hôpital et la ville, entre le sanitaire, le champ médico-social et le champ social. Ce décloisonnement qu'elle autorise, facilite, sécurise, permet une plus grande flexibilité du système de santé. L'hospitalisation à domicile occupe dès lors une place à part entière dans le système de prise en charge des patients. C'est la raison pour laquelle, après un rapide historique et un rappel des textes fondateurs qui encadrent ce mode de prise en charge, je développerai notamment comment l'hospitalisation à domicile est une alternative à l'hospitalisation traditionnelle, porteuse des mêmes exigences de qualité et devant être assortie d'un réel choix pour les patients. J'expliquerai également comment l'HAD est un facteur réel de décloisonnement de l'offre de soins de proximité dans cette interface entre la ville et l'hôpital. Tout d'abord, je souhaiterais rappeler que le développement de l'hospitalisation à domicile est récent et s'est faite dans un cadre assez peu contraignant. Si le concept de soins à domicile remonte à la Révolution française, c'est l'anecdote, la mise en place d'une véritable hospitalisation à domicile n'a pas plus d'un demi-siècle d'histoire. Pour l'anecdote, en effet, en 1790, La Rochefoucauld-Liancourt, alors président du comité de mendicité de l'Assemblée constituante, pose le concept de retour à domicile des mendiants et indigents qui étaient placés dans les hôpitaux généraux. L'expérience ne sera pas mise en œuvre compte tenu de l'actualité tourmentée de l'époque. Ensuite, c'est aux États-Unis, en 1947, que le professeur Bluestone de l'hôpital de Montefiore de New York crée la première forme d'hospitalisation à domicile qu'il nomme très simplement « home care ». En 1951, se fait jour la première expérience française à l'hôpital Tenon grâce à l'imagination du professeur Siguier. À l'époque, il s'agit d'une organisation similaire au home care américain à partir de son service de médecine générale. L'objectif est cependant déjà d'assurer l'aval d'un service d'hospitalisation complète, saturé. En 1957, la première structure officielle d'hospitalisation à domicile est créée à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, organisée alors avec les hôpitaux Tenon et de Saint-Louis. Dès le départ, la conception française de l'hospitalisation à domicile introduit une innovation par rapport au système américain en choisissant de s'appuyer sur la médecine libérale pour assurer la continuité des traitements des patients à domicile. En 1958, une structure d'hospitalisation à domicile dénommée Santé Service est créée à Puteaux à l'initiative du professeur Denoy, qui est alors directeur de l'hôpital Gustave Roussy de Villejuif, et ce avec l'aide de la Ligue contre le cancer. Cette association de loi de 1901 est destinée, vous l'avez bien compris, aux malades cancéreux. En 1973, donc dans une période relativement récente, est créée la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile qui permet de réunir les structures d'hospitalisation à domicile qui commencent à se développer sur le territoire. Ce bref rappel tend cependant à montrer que l'hospitalisation à domicile, à son démarrage, répond plus à une nécessité, l'aval de services de médecine générale saturés, l'absence de réponse de prise en charge à des malades cancéreux en fin de vie, qu'à une véritable volonté. Rappelons en effet que la médecine hospitalière et l'hospitalisation conventionnelle, traditionnelle, sont alors en plein développement. 1958, la loi Debré, le développement des plateaux techniques dans les années 70-80 et la création du corps des praticiens hospitaliers temps plein. C'est la raison pour laquelle les textes fondateurs sont finalement, en quelques mots, des textes de loi pour quelques normes de fonctionnement des dispositions réglementaires et pour l'essentiel des circulaires. Je les balaie très rapidement. Le 31 décembre 1970, la loi hospitalière donne à l'hospitalisation à domicile une existence légale en disposant que les services des centres hospitaliers peuvent se prolonger à domicile sous réserve du consentement du malade ou de sa famille pour continuer le traitement avec le concours du médecin traitant. Et à ce titre, l'hospitalisation à domicile fait partie des structures sanitaires. Les décrets d'application n'ont jamais été publiés. En 1974, c'est une convention nationale type parue dans une circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie le 29 octobre 1974 qui précise les conditions d'admission en hospitalisation à domicile, les critères relatifs aux états pathologiques et les conditions de fonctionnement. Il faudra en fait attendre 1986 pour qu'un ensemble de circulaires vienne étendre le champ de l'hospitalisation à domicile à l'ensemble des pathologies jusqu'à la psychiatrie. Le décret d'ailleurs de la même année, du 14 mars 1986, relatif à la lutte contre les maladies mentales et à l'organisation de la sectorisation psychiatrique, précise que la prévention, le diagnostic et les soins sont assurées notamment à la résidence des patients. Par ailleurs, un arrêté de la même année du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d'hébergement, mentionne également que les services d'hospitalisation à domicile en psychiatrie organisent des prises en charge thérapeutiques à domicile associées, s'il y a lieu, à des prestations d'entretien nécessitées par l'état de dépendance du patient. La première définition un peu claire des missions de l'hospitalisation à domicile est liée au décret du 2 octobre 1992 qui dispose que les structures dites d'hospitalisation à domicile permettent d'assurer au domicile du malade pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et nécessairement coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. À partir de cette date, 1992, un certain nombre de circulaires vont venir préciser la spécificité de l'hospitalisation à domicile. Je cite rapidement la circulaire ministérielle du 30 mai 2000 qui clarifie le champ d'application. Elle spécifie que l'hospitalisation à domicile concerne les malades atteints de pathologies graves, aiguës ou chroniques, évolutives et ou instables, qui, en l'absence d'un tel service, seraient hospitalisés en établissement de santé. L'hospitalisation à domicile a pour objectif d'éviter ou de raccourcir l'hospitalisation en service de soins aigus ou de suite et réadaptation lorsque la prise en charge à domicile est possible. Elle précise, en les détaillant, la typologie de l'ensemble des actes pouvant être seuls ou associés à d'autres actes réalisés à domicile. Une circulaire plus récente encore, du 4 février 2004, selon le même schéma, complète les modalités de la prise en charge générale, l'ensemble de ces orientations étant de favoriser le développement de l'hospitalisation à domicile et à s'inscrire dans le cadre des schémas régionaux d'organisation sanitaire, dits de deuxième génération, c'est-à-dire à être pris en compte dans la définition de l'organisation territoriale des soins sur l'ensemble du territoire national. Suivra une ordonnance du 4 septembre 2004 qui, là encore, redonnera cette importance à l'hospitalisation à domicile, fait du développement de ce mode de prise en charge un volet obligatoire des schémas régionaux d'organisation sanitaire, obligeant ainsi les acteurs régionaux à une réflexion territoriale sur la place de l'hospitalisation à domicile. La dernière circulaire date du 1er décembre 2006. Elle rappelle surtout le caractère polyvalent et généraliste de l'hospitalisation à domicile. Elle rappelle les obligations qui sont liées aux obligations de qualité, notamment en termes de sécurisation du circuit du médicament, en termes de soins palliatifs et en termes de continuité des soins 24 heures sur 24. Elle mentionne le rôle des différents acteurs internes et externes et le positionnement de l'hospitalisation à domicile au sein d'une offre de soins locale. Après ce rapide rappel à la fois de l'historique et du cadre qui est à peine réglementaire puisque une circulaire n'est pas créatrice de droit, je souhaiterais simplement expliquer comment l'alternative à l'hospitalisation à domicile permet de répondre à des indications qui relèvent bien sûr de l'hospitalisation avec les mêmes exigences de qualité des soins et avec un véritable choix offert aux patients qui dans d'autres circonstances seraient pris en charge dans un établissement de santé. Aujourd'hui, le nombre de structures d'hospitalisation à domicile s'élève à 205. C'est peu. Le secteur privé est fortement représenté sur ce type de prise en charge puisqu'il totalise près de 70% de l'activité, dont 20% pour des structures associatives qui participent au service public hospitalier. Cet état de fait est notamment lié aux modalités de financement de l'hospitalisation à domicile. Son développement est réel puisque l'activité d'hospitalisation à domicile augmente d'environ 6 à 7% par an et continue d'augmenter à un rythme extrêmement soutenu alors que l'activité d'hospitalisation augmente de 2% environ par an pour les modes de prise en charge plus traditionnels. Nous atteignons ainsi en 2005 quasiment 1,9 million de journées d'hospitalisation à domicile. Cette progression rapide est arithmétiquement liée à l'augmentation du nombre de places. Nous avions en 1999 à peine 4 000 places, nous en avons plus de 7 000 en décembre 2006, et cette forte progression correspond à un souhait de l'ensemble des pouvoirs publics, puisqu'en décembre 2005, le ministre de la Santé s'est engagé à favoriser le doublement du nombre de places d'hospitalisation à domicile pour atteindre 15 000 places en 2010. La répartition entre les régions montre que toutes les régions se sont efforcées de développer une activité d'hospitalisation à domicile. Pour autant, les disparités sont extrêmement importantes entre les plus dotées, comme l'Île-de-France qui totalise 712 000 journées d'HAD en 2005 et les régions où l'implantation n'est pas très significative comme l'Auvergne qui ne compte, même pour une population bien moindre bien évidemment, que 16 300 journées d'hospitalisation à domicile en 2005. Les inégalités géographiques tendent pourtant à se réduire puisque la politique volontariste de développement permet maintenant d'avoir une implantation dans tous les départements, sauf dans 8 départements, alors qu'en 1999, la moitié des départements français ne disposaient encore d'aucune structure d'hospitalisation à domicile. De manière générale, on constate cependant un plus fort développement dans les zones de forte densité démographique, car l'organisation du service d'hospitalisation à domicile est bien évidemment plus facile et on atteint plus facilement la taille critique d'une structure d'hospitalisation à domicile qui est considérée à un minimum aujourd'hui de 30 places. Enfin, en ce qui concerne la nature de l'activité des structures d'hospitalisation à domicile, il est à noter que les 10 premiers diagnostics qui correspondent à une prise en charge en hospitalisation à domicile, eh bien, la moitié concerne des pathologies cancéreuses. L'âge moyen des patients pris en charge est de 61 ans et la durée moyenne de séjour est relativement courte puisqu'elle est de 14 jours en hospitalisation à domicile. Il faut savoir que derrière les diagnostics principaux, dont j'ai dit qu'ils concernaient essentiellement des pathologies cancéreuses, il faut avoir conscience que l'hospitalisation à domicile répond notamment à un besoin de soins palliatifs puisqu'environ 20% des journées réalisées en hospitalisation à domicile le sont pour accompagner des fins de vie et correspondent dans ce cas profondément à un choix du patient. Quelles sont les indications de l'hospitalisation à domicile? Les patients doivent nécessiter des soins complexes et coordonnés qui comportent une évaluation médicale, des soins techniques quotidiens ou quasi quotidiens, mais ces soins techniques peuvent être des soins infirmiers, de la rééducation, de la psychothérapie et des soins tout simplement psychologiques. Ces soins peuvent également être des soins de réadaptation à durée déterminée. C'est un classique chez des personnes âgées ou des patients atteints de maladies chroniques et il inclut surtout les dimensions préventives et éducatives tant pour le patient que pour son entourage, coordonnées autour d'un protocole de soins personnalisés. Ce qui veut dire que ces soins sont différents des soins qui sont habituellement prodigués par des infirmiers à domicile ou encore par des services de soins infirmiers à domicile qui sont en soi des structures plus organisées. Je l'ai rappelé en mentionnant les textes fondateurs, l'hospitalisation à domicile a clairement une vocation polyvalente. Il y a eu des tentatives d'hospitalisation à domicile spécialisées en obstétrique, en psychiatrie, Mais désormais, ce mode de prise en charge trop spécialisé est écarté par la circulaire du 1er décembre 2006 pour au contraire faire prévaloir l'idée d'une équipe médicale, paramédicale, coordonnée, pouvant répondre aux besoins d'hospitalisation à domicile d'une population sur un territoire de proximité donné. Les critères de qualité sont déterminés par décret, et notamment ces critères de qualité correspondent à une nature de locaux, à des fonctions qui sont prévues par l'article D6124-307 du Code de la santé publique, mais surtout les textes réglementaires, et c'est le premier critère de qualité, déterminent les compétences mobilisées. Aujourd'hui, les équipes de soins, de rééducation, les assistantes sociales, les psychologues doivent être présentes et leur nombre et la qualification sont appréciés en fonction de la nature et du volume des activités effectuées. De manière très précise, chaque structure d'hospitalisation à domicile doit disposer en permanence, ce qui veut dire 24 heures sur 24, d'au moins un agent pour 6 patients pris en charge. Le personnel exprimé en équivalent temps plein pour une structure doit être constitué pour moitié d'infirmiers, ce qui veut dire la qualité des soins qu'on y dispense. Et enfin, la structure d'hospitalisation à domicile doit comporter, quelle que soit sa capacité, un cadre infirmier capable de seconder dans l'action de coordination le rôle du médecin coordonnateur. En effet, que ce soit un établissement autonome de santé ou que ce soit un service d'un établissement de santé, l'hospitalisation à domicile est une structure mixte qui utilise à la fois des compétences internes dans ses propres équipes et qui coordonne les interventions de professionnels extérieurs et notamment des professionnels libéraux en prenant en charge l'environnement sanitaire et médico-social pour une prise en charge globale du patient. Bien évidemment, l'activité de ces divers intervenants doit être coordonnée sur la base du protocole de soins personnalisés. Et cette coordination est principalement confiée à un médecin coordonnateur qui est l'élément clé, l'homme clé ou la femme clé, du fonctionnement médical de la structure. Ce dernier, référent médical de l'établissement ou du service, ne prescrit pas, ne soigne pas, ne se substitue pas au médecin traitant, mais il organise le fonctionnement médical de la structure. Il participe à la décision d'admission, il participe à la décision de sortie du patient, il est le garant du respect des protocoles de soins, et enfin, il coordonne les échanges d'informations entre les professionnels en interne à la structure, mais également en externe avec les intervenants libéraux. Qu'il soit ou non prescripteur, le médecin traitant, le plus souvent librement choisi par le malade et rémunéré par la structure d'hospitalisation à domicile, est le pivot de l'organisation d'une prise en charge en hospitalisation à domicile. C'est ce médecin traitant qui dispense les soins de façon périodique, qui va assurer le suivi médical du patient, qui va assurer la surveillance des soins lors de ses visites. Il est donc personnellement responsable du diagnostic et des prescriptions. Cette mixité du suivi médical avec le rôle du médecin coordonnateur et le rôle du médecin traitant, qui est un médecin libéral, constitue toute la spécificité de l'hospitalisation à domicile. Alors, comment avons-nous développé l'hospitalisation à domicile? Eh bien, il a fallu tout simplement recourir à des incitations financières, et ces incitations financières sont récentes. L'hospitalisation à domicile a ainsi anticipé sur la réforme du financement des établissements de santé en basculant l'ensemble du financement sur la tarification liée à l'activité réalisée auprès du patient. En effet, depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006, et ce à compter donc du 1er janvier 2006, tous les établissements d'hospitalisation à domicile, qu'ils soient publics ou privés, sont financés pour la totalité de leur activité par une tarification à l'activité, et ce, à la différence des autres établissements de santé. La rémunération des activités se fait sur la base d'un forfait pour chaque journée où le patient est hospitalisé à domicile, ce forfait étant appelé groupe homogène de tarifs. Le classement de chaque journée de présence dans un groupe homogène est réalisé par un programme informatique. L'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et la prise en charge des prestations d'hospitalisation à domicile définit les règles de facturation et précise notamment un forfait groupe homogène de tarifs est facturé pour chaque journée. Il existe 31 tarifs différents en fonction de la lourdeur des soins dispensés. Dans ces conditions, l'HAD, l'hospitalisation à domicile, bien que facturée à 100% pour des raisons de développement volontariste, peut être un moyen de prise en charge moins onéreux que l'hospitalisation conventionnelle. Nous disposons à ce jour simplement d'une étude réalisée par l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, l'IRDES, étude qui date de juillet 2006 et qui est relative au coût d'une hospitalisation en soins de suite. Elle conclut que le coût de fonctionnement moyen journalier est une fois 6 plus élevé en hospitalisation complète qu'en hospitalisation à domicile. Les chiffres sont à prendre avec précaution puisque cette étude affiche que le coût moyen serait de 263 euros, coût moyen journalier en hospitalisation complète, alors qu'il serait en moyenne de 169 euros en hospitalisation à domicile. Mais bien évidemment, tout dépend de la lourdeur des cas traités et il nous reste aujourd'hui à poursuivre l'étude sur d'autres indications et il n'est pas assuré que le résultat soit totalement analogue. Alors, ce qui est important, c'est que l'hospitalisation à domicile soit proposée comme un choix offert aux patients et à leurs proches. Même si le choix exprimé par les patients plaide pour le développement de l'hospitalisation à domicile qui correspond davantage à leur souhait de se réapproprier leur prise en charge dans un univers moins anxiogène mais également moins pathogène, la superposition d'un espace de soins et d'un lieu de résidence n'est pas toujours facile et peut connaître des limites qu'il convient d'anticiper en établissant un vrai bilan de l'environnement avant une admission en hospitalisation à domicile. En tout état de cause, l'hospitalisation à domicile ne saurait être qu'un moyen de désengorger les services hospitaliers. Cette prise en charge, je l'ai dit, pouvait être réappropriée dans un univers moins anxiogène. Pourquoi ? Parce que c'est une hospitalisation écourtée et évitée et donc la proposition d'un environnement moins déstabilisant. Lors d'un épisode de crise chez un patient, et en particulier chez un sujet âgé, une hospitalisation est souvent génératrice de ruptures et donc de perturbations. Le malade souvent âgé est souvent désorienté par le transport, l'hospitalisation, et ces éléments favorisent des pertes de repères et peuvent constituer des facteurs d'aggravation de la pathologie. L'arrivée bien souvent non préparée des patients aux urgences participe de l'engorgement de ces services d'urgence, au grand désagrément des patients, des proches, qui attendent quelquefois très longtemps un lit après de nombreux examens biologiques et d'imagerie, alors qu'une bonne prise en charge à domicile aurait permis d'offrir un service également de qualité. En revanche, cette prise en charge, elle est très responsabilisante pour le patient, mais aussi pour les aidants, c'est-à-dire pour l'entourage proche. L'hospitalisation à domicile intervenant de manière coordonnée mais ponctuelle au domicile du patient, le patient et son entourage sont en toute logique davantage sollicités. Le patient ou ses aidants intègrent de fait l'équipe soignante en tant qu'acteur de la prise en charge. L'éducation thérapeutique du patient et des aidants naturels, c'est-à-dire la famille, est un passage obligé qui permet que s'accomplissent en toute sécurité des gestes et des attitudes de soins qui sont effectués dans ce cas par des non-professionnels, ont l'avantage de rééquilibrer la relation soignant-soigné, mais de solliciter beaucoup de la part du patient et de son entourage. Dans le cas des maladies chroniques, l'hospitalisation à domicile concourt alors à cette responsabilisation assumée du patient à l'égard du processus de soins. C'est un malade qui vit avec sa maladie. Dans le cas de soins palliatifs, l'hospitalisation à domicile offre très simplement le choix éthique de mourir à domicile quand la majorité de nos concitoyens n'ont pas le choix et meurent à l'hôpital. Mais c'est sans doute à ce moment-là que l'on mesure les limites du maintien à domicile. La prise en charge du malade en hospitalisation à domicile repose sur l'élaboration d'un projet thérapeutique parfois complexe, auquel s'ajoute un véritable projet de vie au domicile, dans lequel va prendre place l'entourage familial. Cette pratique est cependant limitée par la capacité du patient et de son entourage à faire face à des responsabilités souvent très lourdes. Elle peut mettre à l'épreuve la solidité du lien familial et l'appui des aidants peut aussi atteindre ses limites au fil d'une prise en charge dont la durée se compte quelquefois en mois par rapport à une durée moyenne. L'hospitalisation complète peut alors apparaître comme une solution de répit si elle est acceptée par le patient comme une phase temporaire de ce projet de soins. Et c'est la raison pour laquelle il est important de bien articuler l'hospitalisation à domicile dans un réseau d'établissements de santé pour offrir aux malades et aux familles cette solution de répit si elle est nécessaire dans un cadre plus conventionnel. J'ai indiqué tout à l'heure que l'hospitalisation à domicile pouvait être également un facteur de décloisonnement de l'offre de soins de proximité. L'HAD développe en effet des liens entre les différents professionnels de santé au sein d'un même territoire. Mais elle est également un élément parmi cet ensemble d'acteurs de santé avec lesquels les rapports doivent être très clairement articulés. D'abord, l'hospitalisation à domicile est un mode de prise en charge pluriprofessionnel. L'hospitalisation à domicile répond à une approche globale du patient. Elle est par nature polyvalente et généraliste, comme l'a rappelé la circulaire du 1er décembre 2006. Une des caractéristiques propres tient au fait qu'elle fait fi des spécialités médicales qui cloisonnent très souvent la prise en charge à l'hôpital. Il ne peut en principe exister d'hospitalisation à domicile spécialisée, ce qui permet un facteur facilitateur pour la prise en charge à la fois somatique des malades polypathologiques comme les personnes âgées, mais également une prise en charge psychologique. La porte d'entrée en hospitalisation n'est plus la défaillance de l'organe, n'est plus la pathologie, c'est le patient lui-même, d'où cette vision extrêmement humaniste. Deuxième point, l'hospitalisation à domicile propose une approche continue de la prise en charge du patient. Lors d'une hospitalisation à domicile, le patient reste pris en charge par son médecin traitant sans qu'il y ait aucune rupture. Ce professionnel connaît parfaitement les antécédents, peut continuer le suivi de son patient dans une relation de confiance et dans un environnement très sécurisé pour ce patient. Les professionnels paramédicaux de l'hospitalisation peuvent être salariés par les établissements, mais c'est aussi, et c'est souvent le cas, ce sont des professionnels libéraux payés à l'acte, et ici le lien avec la ville peut s'avérer intéressant dans le suivi d'un patient, une fois prononcée la sortie du patient de l'HAD, puisqu'il retrouvera pour des soins plus ponctuels ces mêmes intervenants libéraux qui font partie de son environnement de vie dans un bassin de vie. L'HAD privilégie une approche complémentaire des besoins du patient. En dehors des professionnels associés de manière permanente à la structure, cette dernière peut avoir recours à des paramédicaux, des infirmiers, des psychologues, des professionnels de rééducation qui seront rémunérés de façon très souple et ponctuellement à la prestation. Ces professionnels médicaux et paramédicaux, tous impliqués, participent au travail d'élaboration du protocole de soins piloté par le médecin coordonnateur. C'est ce protocole appliqué à un malade en fonction de ses besoins qui clarifie mais qui traduit le décloisonnement entre le champ médical et paramédical. Plus encore qu'en hospitalisation complète, les acteurs sociaux sont des professionnels importants. Le service social, l'assistante sociale évalue en première intention les possibilités d'accueil du réseau familial et social afin de garantir la bonne qualité de l'hospitalisation à domicile. L'accompagnement psychosocial durant cette hospitalisation est souvent nécessaire et parfois essentiel, aussi bien auprès du malade que de sa famille et des aidants, et tout particulièrement d'ailleurs pour éviter l'épuisement de ses aidants et donc la réhospitalisation des malades. Enfin, le protocole de soins peut même prendre en compte des besoins d'aide complémentaires, l'aide ménagère, la travailleuse familiale, le portage de repas à domicile, la garde de nuit. L'ensemble de ces besoins sont pris en charge dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. C'est la raison pour laquelle l'hospitalisation à domicile consacre à la fois le principe de subsidiarité entre la ville et l'hôpital et sa complémentarité. Le principe est simple, ce qui se peut se faire à domicile avec les mêmes critères de qualité doit être privilégié si c'est en fait le choix du patient et de sa famille. Les structures d'hospitalisation à domicile sont associées à un double titre. La complexité des pathologies en HAD impose un renforcement de la collaboration entre les professionnels intervenant à domicile et ceux présents dans les services hospitaliers spécialisés. Ces dernières vont avoir un rôle d'expert pour certaines pathologies fréquemment traitées en hospitalisation à domicile, comme le cancer, et pour les affections cardiologiques, les affections neurologiques. Et ces services hospitaliers organiseront la mise à disposition de la structure d'hospitalisation à domicile, des procédures et des protocoles thérapeutiques qui fonderont le protocole de soins particulier avec des critères de qualité partagé avec les professionnels de l'HAD. Deuxième point, le processus de prise en charge du patient, conduisant parfois ce dernier à des allers-retours entre l'hospitalisation à domicile et l'hospitalisation complète, la continuité des soins nécessite que soient organisés les passages entre les structures afin d'éviter les ruptures de prise en charge. Ainsi, les établissements d'hospitalisation complète s'engagent au minimum à réadmettre sans délai et dans le même service, un patient qui a été transféré en hospitalisation à domicile sans passage aux urgences. Une fois le patient réadmis, le service hospitalier s'engage à faire participer l'équipe d'hospitalisation à domicile au protocole de soins, à l'informer régulièrement et surtout à informer le médecin traitant de l'évolution de l'état de santé du patient hospitalisé. Point de rencontre entre la médecine hospitalière et la pratique ambulatoire, l'HAD est susceptible de faire bénéficier le malade de l'offre graduée de soins entre un niveau de proximité et un niveau de recours du centre hospitalier ou de l'expertise du CHU. En ce sens, l'hospitalisation à domicile peut préfigurer un nouveau mode d'organisation de la médecine et des soins de ville plus structuré et plus professionnel que le constat réalisé aujourd'hui des médecins isolés travaillant quelquefois de manière éloignée par rapport à des paramédicaux. Enfin, l'HAD constitue une des réponses aux besoins de soins de proximité. L'HAD, comme modalité particulière de prise en charge du patient, se trouve confrontée à une offre de soins de proximité diverses, les services de soins infirmiers, les centres de soins infirmiers, les réseaux de santé. Et il arrive qu'au vu de la patientèle ou des professionnels, les frontières entre l'ensemble des acteurs du domicile n'apparaissent pas comme toujours évidentes et notamment pour les familles concernées. Pourtant, chacun a sa place et ce n'est qu'au niveau d'une complémentarité clarifiée entre chacun de ces acteurs et d'un rapprochement préalable que la prise en charge à domicile peut être la plus efficace. L'HAD a des rapports avec les services de soins infirmiers à domicile et les infirmiers libéraux. Ils sont complémentaires. Pour autant, l'HAD a vocation à prendre éventuellement le relais d'un SIAD et si la situation s'aggrave, et à l'inverse, le service de soins infirmiers à domicile ou l'infirmière libérale a vocation à prendre le relais de l'HAD en sortie. La création de structures mixtes à cet égard ou de plateformes offrant à la fois un service de soins infirmiers à domicile et une hospitalisation à domicile, gérée par un même établissement, un même opérateur, peut être dans ce cas soutenu, car ce type d'organisation favorise le continuum de la prise en charge. Mais il faut, dès lors, que les indications respectives soient clairement définies, scrupuleusement respectées et bien évidemment contrôlées. Deuxième différenciation, l'hospitalisation à domicile a recours à des organismes prestataires de services. Les organismes prestataires de services à la personne, portage de repas, prestations domestiques, trouvent leur place dans la liste des acteurs qui facilitent le maintien à domicile des patients en hospitalisation à domicile. Pour autant, les rapports doivent être parfaitement clairs. Enfin, l'hospitalisation à domicile a également des relations avec les réseaux de santé. Je rappelle que les structures d'hospitalisation à domicile participent de plus en plus aux différents réseaux de santé implantés sur un territoire en fonction des thématiques portées par ces réseaux. Les liens sont particulièrement étroits, par exemple, avec les réseaux de cancérologie ou les réseaux de périnatalité ou les réseaux de prise en charge des maladies, des pathologies cardiovasculaires. Mais cette participation, si elle facilite la maîtrise des liens entre les différents intervenants précédemment évoqués et l'environnement sanitaire, ne doit pas aboutir à une confusion des rôles. Un réseau coordonne, il ne prend pas en charge. Enfin, les dernières différenciations qu'il nous faut opérer dans la réponse de proximité, c'est la relation entre l'hospitalisation à domicile et les hôpitaux locaux. Les hôpitaux locaux, dans nos campagnes françaises, répondent globalement aux mêmes indications que l'hospitalisation à domicile et elles mobilisent les mêmes acteurs. On trouve dans les hôpitaux locaux des patients chroniques et par ailleurs des patients, des sujets âgés, souvent atteints de polypathologies. Ces hôpitaux locaux fonctionnent pour l'essentiel avec des médecins traitants. Et il faut dès lors s'interroger sur la complémentarité entre le rôle de l'hospitalisation à domicile et l'hôpital local et veiller à ne pas, par un développement trop volontariste de l'hospitalisation à domicile, fragiliser les structures que sont les hôpitaux locaux et qui apportent également dans un environnement proche des soins de qualité. Pour conclure, je dirais que l'hospitalisation à domicile n'a pas eu de mal à convaincre les professionnels de santé qui savent chaque jour faire davantage appel à ces prestations, voire acceptent d'y participer directement. Pour autant, elle ne se construit pas sur un terrain vierge et elle utilise les services d'acteurs existants pour mieux coordonner leurs actions en respectant les responsabilités de chacun, dans des relations moins hiérarchisées sans doute que dans une structure d'hospitalisation complète. Les pouvoirs publics sont convaincus de l'intérêt de ce type de prise en charge et en soutiennent le développement. En témoigne ainsi l'engagement ministériel de 2005 et la publication récente d'un ensemble de textes qui facilitent la création des structures d'hospitalisation à domicile. Ces textes ont été pris en application de l'ordonnance du 4 septembre 2003. Ce nouveau cadre juridique, ces incitations financières sont bien le signe de la volonté de rééquilibrer les cartes sur le plan de l'organisation territoriale des soins au bénéfice de cette alternative à l'hospitalisation. L'ambition ministérielle est maintenant de poursuivre le développement de l'hospitalisation à domicile dans le cadre d'une réponse aux besoins de proximité. Nous souhaitons également poursuivre les réflexions sur l'extension de la notion de domicile. À cet égard, doit être mentionné le décret du 22 février 2007 qui rend l'intervention de l'hospitalisation à domicile possible en maison de retraite parce que qu'est une maison de retraite si ce n'est un substitut de domicile pour une personne âgée dépendante. D'autres établissements d'hébergement pourraient demain revendiquer la même possibilité afin d'éviter aux personnes les plus fragiles, les plus dépendantes, qui sont aujourd'hui hébergées dans des structures médico-sociales, un transfert toujours perturbant dans une structure hospitalière. Le développement potentiel de l'hospitalisation à domicile sera assurément favorisé par les évolutions techniques, la domotique, la télésurveillance à domicile, mais la qualité de la prise en charge reste avant tout subordonnée à un double engagement humain, celui du malade et de son entourage familial qui doivent accepter d'ouvrir leurs portes à un environnement technique, à des équipes médicales et soignantes, qui doivent également accepter que la maladie ne soit pas une parenthèse, mais soit intégrée dans la vie. L'engagement humain également des médecins et des personnels soignants qui, en entrant dans l'intimité d'une famille, accepte un soutien permanent, une organisation exigeante. À l'heure où la revendication du temps personnel est choisie, est fortement porteuse et fortement portée, y compris parmi les professionnels de santé. L'hospitalisation à domicile nous ramène ainsi à la dimension globale et altruiste du soin, au-delà de l'acte technique ou des actes techniques. Dans la réponse apportée à ceux qui vivent avec la maladie ou à ceux qui sont proches de la fin de vie, le prendre soin l'emporte assurément sur le soin. C'est sans doute également cette préoccupation humaniste qui doit guider les choix éthiques. Et je conclurai mon propos en faisant référence à un ouvrage récent d'Alain Cordier, qui a été auteur d'un rapport remis au ministre en 2003, intitulé « Éthique et profession de santé ». Il écrit « Plus l'exercice médical et soignant sera enrichi par la science et la technique, plus il sera soumis aux droits, aux contraintes financières, voire au consumérisme, plus le besoin d'éthique s'affirmera. » Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre la communication d'Annie Poder, conseillère référendaire à la Cour des comptes et directrice de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne, venue à l'Académie des sciences morales et politiques pour présenter une communication intitulée « L'hospitalisation à domicile ». C'était le 4 juin 2007.